Être ou ne pas être, c'est là la question.
Mettez-vous donc à l'aise. Enlevez votre casque.
Merde !
Oh ! Voilà du joli, Père Ubu !
Je t'empêcherai de jaser et d'être insolent ! Tais-toi !
Bonsoir à tous, bienvenue dans En scène, votre chronique consacrée au théâtre et à son actualité. Ce soir, action palpitante, beaucoup d'amour et des langues étrangères. Et on commence avec Charlie à la recherche de Charlie. Une mise en scène de Betty Earthbees avec sa compagnie La Petite Fabrique, fondée sur l'idée de la place de l'art dans la société pour tendre vers plus d'altérité et de fraternité. La pièce se situe dans une série de 5 autres pièces. C'est dans un univers fantastique, drôle et visuellement magique où l'on suit les aventures de la jeune Charlie dans un genre de quête identitaire nommé Charlie du vent derrière le nombril. Charlie à la recherche de Charlie, c'est donc le deuxième volet de cette trilogie en 5 actes, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est pas grave. Donc c'est le deuxième volet, mais pas d'inquiétude, parce que vous pouvez suivre cet épisode du MCU du théâtre sans avoir vu aucune autre pièce de la compagnie. Le texte a été vraiment bien pensé. C'est d'ailleurs un texte du dramaturge québécois Martin Bellemare qui s'amuse avec les codes de l'écriture et la sonorité des mots pour inventer un nouveau réel et transformer le voyage initiatique de Charlie en une rêverie loufoque. Sur scène, on a deux narrateurs slash explorateurs qui vont devenir tour à tour les personnages de cette histoire insolite et nous faire découvrir des paysages riches de fantaisie, avec l'héroïne qui parcourt de nouveaux territoires, qui quitte la savante et va se retrouver en terre de pathologie, rencontrer des personnages étonnants comme le Coatiti, le Padnon ou le Woja. Mystère, aventure, Charlie devient Charlie Jones, c'est une référence à Indiana Jones pour ceux qui ne l'avaient pas. Sur le plateau, on a de la brume, de la lumière sombre mais éblouissante, des décors très simples avec seulement des panneaux sur lesquels sont projetés des paysages fabuleux, de la carte au trésor jusqu'à des méduses volantes colorées et scintillantes. Martin Bellemare, auteur, explique dans une note d'intention son projet. Je me dis que le temps du théâtre est un temps différent et pour ça je trouve qu'il est valable et précieux parce qu'il montre autre chose que le temps quotidien. Une possibilité d'étonnement, d'émotion, de réflexion. Je veux leur parler de l'imaginaire sans limite. C'est un conte fabuleux, aventureux, merveilleux, qui s'adresse plutôt à un jeune public, mais je suis convaincue que l'ambiance et l'esprit de la pièce saura ranimer les âmes d'enfants endormies chez certains. Et rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Bordeaux et vous autour de cette table, en exclusivité mondiale, avant d'aller voir Charlie à la recherche de Charlie, voici un résumé très approximatif et absolument pas officiel de la pièce présentant ce volet. Charlie et le Jinkwit, voici une voix off.
Previously on Charlie and Jinkwit. Nous avons pu rencontrer la petite Charlie avec son ami le Jinkwit, cherchant les cheveux de Charlie, parce que la pauvre n'en a que deux.
C'est vraiment ça l'histoire? Bon.
Heureusement, par un concours de circonstances inattendues et inexplicables, et des aventures périlleuses pleines de rebondissements épatants, ses cheveux ont poussé. Poussé. Et l'intrépide aventurière poursuit son exploration hors de son pays fantastique. Bravant les dangers, les explosions, les courses de voitures et sauve la terre d'une invasion de zombies.
Non, c'est pour les enfants. Et c'est du théâtre.
Que recherche-t-elle dans sa quête? D'autres cheveux? Charlie est une petite fille étrange quand même. Mais qui suis-je pour donner mon avis? Je ne suis que la voix off. Regardez le prochain épisode de Charlie à la recherche de Charlie, mais pas sur vos écrans.
Merci à Virgile pour la voix off, pour ce très complet résumé d'une pièce à destination des enfants. Alors oui, c'est vrai, elle cherche vraiment ses cheveux dans la pièce d'avant. Bon, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de zombies, mais c'est quand même super bien parce que c'est une pièce d'aventure, de poésie et de magie, dont la suite, le prochain volet aussi fou, est à retrouver au Théâtre des 4 saisons, le mardi 19 mars à 19h30. Et maintenant, complet changement d'ambiance, on sort les violons avec Oublie-moi, une histoire d'amour au plus grand plaisir des gens autour de cette table. Mais en vrai, ça va parce que c'est pas gnangnan et ça multiplie d'autres thématiques. Il était une fois l'histoire d'amour entre Jane et Arthur, une histoire parfaite. Il était une fois l'histoire d'amour qu'Arthur aurait aimé ne jamais oublier. Ça commence par le plus banal des coups de foudre. Un soir, en boîte de nuit, c'est une belle histoire qui commence. Mais tout n'est pas aussi rose que le décor monochrome de leur appartement. Un jour qu'Arthur est sorti faire les courses, que Jeanne lui a demandé, il revient sans, il a oublié. Premier indice d'un dérèglement, premier signe de la maladie, détourderie en absence répétée, le diagnostic tombe comme un couperet, Alzheimer. C'est une pièce française adaptée depuis une autre pièce qui est britannique, qui s'intitule In Overworld, voilà mon anglais, de Matthew Seeger, qui interroge le rapport au monde de ces malades atteints de démence et rend hommage à celles et ceux qui les aiment et les accompagnent amoureusement, obstinément et passionnément. L'adaptation, la mise en scène et l'interprétation de Marie-Julie Beau et Thierry Lopez connaît un triomphe à Avignon et est récompensé de 4 Molières. D'ailleurs, Matthew Seeger, l'auteur de la pièce originale, est allé voir à Paris avec sa mère la pièce et selon lui, « It was amazing ». La pièce est construite de souvenirs, de structures non linéaires, de flashbacks et s'adresse et d'adresse directe au public sur un plateau très réduit où les deux comédiens sont presque à l'étroit sur une scène qui oscille entre une lumière rose bonbon reflétant ce conte amoureux parfait et la lumière bleue, le miroir de la réalité et de la maladie. Sur scène, on voit 50 ans de la vie de Arthur et Jeanne, leur combat contre la fatalité de la perte de la mémoire, mais leur conservation à tout prix de l'humour, avec une place centrale accordée à la musique. Oublie-moi, c'est bien plus qu'une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un combat, c'est l'histoire de près d'un million de personnes en France atteintes d'Alzheimer, c'est le récit d'une vie, et un récit aussi drôle qu'émouvant. C'est un récit à voir le 14 mars à 20h30 à l'espace culturel du Trolon à Bruges, et bien sûr, faut pas l'oublier. Bon, après cette blague très mauvaise, partons en Suède, avec un titre en suédois, un titre que je ne vais pas prononcer, quelque chose d'autre va prononcer, donc voici place à Google Traduction et son suédois. Voilà, la pièce s'appelle Dunda Dundug, c'est un texte de...
Ah, c'est le truc du chien.
C'est ça.
Ah, oui.
Un texte de Rasmus Lindberg, un auteur et metteur en scène, vous l'avez deviné, suédois, qui écrit cette pièce, qui se traduit en français par « Le mardi où Morty est mort » ou bien « Le jour où le jour est mort » ou encore « Le jour où le chien nommé Jour est mort ». Oui, il y a 3 titres. C'est une pièce qui est mise en scène par Pascal Daniel Lacombe, qui a suivi un parcours universitaire en langue étrangère et une formation de danseuse à Londres et à New York. Mais ça ne l'a pas empêché de créer la compagnie du Théâtre du Rivage avec Antonin Vulin au début des années 2000 sur le littoral du Pays Basque. Le jour où le chien nommé Jour est mort, c'est l'histoire d'un chien fugueur. On se demande ce qui va lui arriver. Il fugue au début d'un hiver, quand le jour disparaît en Suède pour laisser place à une longue nuit polaire. Le temps tourne, les jours, les mois, les années défilent de plus en plus vite. La mort survient toujours à un moment ou un autre. Mais avant ça, il y a la vie. Sauf pour le grand-père qui, dès le début, meurt la tête dans son café. Mais il réunit à son enterrement 7 personnages déboussolés, englués dans leur quotidien, maladroits dans leurs interactions. Dont une adolescente enflammée, un jeune homme scotché à son lit, un pasteur alcoolique et un médecin paniqué d'avoir égaré son chien, on va pas lui dire. Chacun et chacune est désemparé quant au sens de l'existence. Ils sont tous renvoyés à leur propre conscience dans une profonde solitude, dans un monde qui semble indomptable et où la compassion a disparu, où les mots ont perdu leur sens, où il ne reste que des regrets. Très joyeux cette pièce. Des personnages semblent sans lien entre eux, ils se juxtaposent dans un temps imprécis et surtout dans un espace en mouvement. Et c'est là toute l'originalité de la pièce à mon sens, c'est une scénographie qui est mouvante. Le plateau il semble immense, l'espace il semble aussi vide, et pourtant il est rempli d'éléments du quotidien, avec un banc central, un lampadaire, un vélo, un canapé, un fauteuil. Bref, des objets et des comédiens qui se déplacent sur le plateau, parce que les planches du plateau, en fait, elles bougent par la magie technique de la machine scénographique. Je dis ça parce qu'en fait, je ne sais pas comment elles bougent les planches. Je ne sais pas du tout s'il y a des gens autour qui en dramaturgie qui savent.
C'est pas une scène par-dessus la scène. Genre, tu sais, t'as la scène de base, j'imagine que c'est la salle vitesse.
Ouais,
c'est ça. Oui, donc ils doivent avoir mis une sorte de scène surélevée juste au-dessus, un peu mécanisée, je pense.
Tu as dévoilé toute la magie de cette pièce, super. Merci à toi. Ça doit être ça, ça doit être une seconde scène. Passons ce point technique super et revenons à mes moutons. Je ne sais pas faire de transition. Donc, on a l'impression que les personnages sont surtout statiques, déplacés par la force des choses, par cette scène sur la scène. Le monde s'anime autour d'eux sans qu'ils en soient les acteurs. Pourtant, les comédiens, ils sont pas du tout mous. On a un jeu toujours en tension, très dynamique, avec une rage dans le texte qui se ressent dans le jeu et beaucoup de figures dansées. Le TNBA fait d'ailleurs un parallèle avec le cinéma de Coris Maki, mais je sais pas qui c'est. Donc je vais vous présenter sa filmographie, sauf qu'il parle finlandais, alors bien sûr la filmographie en finlandais.
Rikos ja rangaistus, varjot paratiisissa, Tatjana, kuolleet lehdet, Aki Kaurismäen elokuvat.
J'espère que vous parlez chinois.
Pas du tout.
C'est un conte contemporain, une comédie décalée entre fantasmagorie et thriller, entrecoupée de monologues mélancoliques et de situations absurdes évoquant notre époque incertaine. C'est un récit qui ouvre sur des brèches philosophiques, sur ce qui nous relie au monde et aux autres, qui nous pose au fond une seule question, comment être ensemble au monde. Et vous pouvez vous aussi répondre à cette question et apprendre à parler le suédois en allant voir Doom Do Doom Do. De toute façon, vous verrez, c'est vraiment le seul titre écrit d'une manière un peu étrange, au TNBA, du 13 au 15 mars à 19h30. Et c'est tout pour cette très longue chronique. En attendant, la semaine prochaine, pensez passe culture, carte jeune et offrez-vous la culture.